Bonjour, tout d'abord, merci infiniment de nous accorder cette interview avec vous, monsieur Nicolas Beck. Donc, nous sommes des élèves du lycée Toulouse-Lautrec. Voici Nina Véron, Flore Dumas et moi-même David Locher. Nicolas Beck, vous êtes géologue, mais vous vous êtes rapidement tourné vers la vulgarisation scientifique pour écrire en 2017 votre premier livre, En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique. En 2020, paraît votre second roman qui s'appelle Nyx Olympica et dont nous allons parler aujourd'hui. Nyx Olympica raconte le voyage de la Terre vers Mars par des astronautes en 2038 par le point de vue d'une jeune astronaute française qui, tout comme vous, est géologue. Vous étiez géologue avant. Qu'est-ce qui vous a décidé, donné envie de faire de la vulgarisation scientifique ?
J'étais passionné par les sciences de la Terre et de l'univers. Et c'est vrai que je me suis tourné vers cette formation dans un premier temps parce que j'ai toujours été vraiment fasciné par l'histoire de notre planète et tout ce que ça peut raconter, tout ce que ça peut nous apprendre sur nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé partager mes connaissances, partager des moments de discussion autour de ces sujets parfois vertigineux quand on pense à l'histoire de la Terre, quand on pense à des questions un peu générales comme la place de la vie sur Terre ou dans l'univers. Dans le domaine de la géologie, donc ça se prête très bien à des moments de rencontre et de discussion autour de ces sujets. Et donc rapidement, j'ai pris du plaisir à organiser ces moments de rencontre, ces conférences, des cafés des sciences, etc. Et donc je me suis tourné vers le domaine de la vulgarisation et j'en ai fait mon métier à l'Université de Lorraine depuis 2003 maintenant. Donc ça m'a permis de toucher un petit peu à toutes les sciences et pas seulement la géologie. Et donc toujours d'être dans une logique où le dialogue entre les chercheurs et le grand public apporte beaucoup de choses à la fois au public et aux chercheurs. Donc j'ai choisi cette voie parce que ça me permet vraiment de toucher un petit peu à tous les domaines scientifiques tout en gardant un pied vraiment dans les laboratoires, ce qui était mon projet de départ.
Donc à ce moment-là, on peut se demander si vous considérez plutôt chercheur ou écrivain dans votre...
Alors, je ne suis pas chercheur, hein. Je travaille à l'université, je suis directeur de la vie universitaire et de la culture. Donc, aujourd'hui, j'organise et avec mon équipe, on organise des manifestations comme la fête de la science, par exemple. Mais je suis en contact avec des chercheurs au quotidien, ce qui me permet vraiment d'être au plus près de la science qui se fait tous les jours dans les laboratoires. Et la partie écriture, c'est quelque chose que je fais en plus parce que j'adore écrire et que c'est quelque chose qui m'a toujours permis vraiment de prendre du plaisir. Donc j'allie un petit peu les deux aujourd'hui. J'écris beaucoup d'articles aussi dans un magazine qui s'appelle Cosinus, qu'on trouve en kiosque. Donc ça me permet d'être au quotidien au contact des chercheurs pour parler de science à travers l'écriture. Et c'est ce que j'ai concrétisé avec Nyx Olympica.
Super, merci beaucoup.
Donc nous, on a travaillé sur le livre Nyx Olympica et on se demandait pourquoi avoir écrit un roman après le livre de vulgarisation scientifique que vous avez écrit.
Alors justement, je trouve ça très intéressant de mêler la littérature et la science parce que quand on est au collège ou au lycée, très souvent, on raisonne par discipline. On a le français, les matières littéraires d'un côté et puis les sciences de l'autre. Et en réalité, c'est pas tout à fait comme ça dans ce qu'on peut découvrir par la suite à l'université ou dans les laboratoires de recherche au quotidien. Donc je trouve intéressant justement de trouver un moyen de médiation qui soit un petit peu différent. Et le roman qui parle de science, ben c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez inédit. Il y en a évidemment dans lesquels on aborde des problématiques scientifiques, mais c'est assez peu fréquent. Donc j'ai réussi à allier finalement ma passion pour l'écriture et ma passion pour la science à travers un objet comme celui-là qui, j'espère en tout cas, interpelle ceux qui ne sont pas forcément scientifiques au départ, mais qui peuvent s'intéresser à ces sujets à travers un livre.
Donc nous avons décidé d'écrire un article sur Nyx Olympica dans la revue scientifique Cahiers Cléraux. Et on a voulu, dans cet article, vérifier la cohérence des données scientifiques présentes dans le livre. Et donc on s'est rendu compte que c'était très réaliste et que le roman inspirait vraiment des sources vraies, quoi. Et on se demandait où vous avez trouvé vos sources pour vous appuyer sur les données dans le livre.
C'est vrai que j'ai fait un travail qui doit permettre en tout cas de se rendre compte un petit peu de la réalité de la recherche dans le domaine, même si c'est de la science-fiction, parce que ça se passe en 2037-2038. Il y a une grosse partie de l'information scientifique qui est en effet tout à fait réaliste. Je me suis appuyé sur des publications scientifiques, sur des livres et sur des rencontres avec des chercheurs que j'ai interrogés sur les sujets dont il était question, avec l'idée que l'information scientifique sur la planète Mars, globalement, elle est vérifiée et elle est juste. Après, il y a une part de liberté sur la partie voyage, puisque forcément, ça reste de l'anticipation. Et là, voilà, tout en m'appuyant sur des choses réalistes, ça reste quand même quelque chose qui laisse plus de place à des choses qui se produiront ou qui se produiront peut-être d'une manière un petit peu différente. Les technologies pour aller sur Mars aujourd'hui, avec un vol habité, on les a pas finalisées. Donc il se peut qu'il y ait des choses justes, il se peut qu'il y ait des choses qui soient un petit peu en décalage avec ce qui se produira le jour où on pourra y aller.
Et finalement, vous avez choisi comme date 2038 pour le livre. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable d'ici là ?
Alors déjà, je me suis appuyé sur un scénario de la NASA qui est publié, celui-là aussi, avec des dates tout à fait réalistes. Donc c'est un scénario où la configuration de Mars et de la Terre permettrait l'envoi d'un vol habité avec une mission cargo quelques années auparavant. Donc c'est des dates qui sont possibles sur le papier. Après, ça reste dans pas très longtemps finalement, hein, 2037, sachant que, comme vous l'avez vu, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est des projets qui s'étalent sur 15, voire 20 ans, le temps de mettre au point les missions, de mettre au point les technologies et le temps de préparer des équipes et du matériel pour concrétiser ce type de mission. C'est peut-être un peu juste, on sera peut-être prêt pour le voyage suivant, quelques années après. C'est possible que ça se fasse avant 2050, hein, malgré tout. En tout cas, au cours du XXIe siècle, ça devrait pouvoir se produire.
Vous faites de nombreuses fois référence à George Orwell et à son fameux livre 1984, dans lequel l'auteur nous présente un monde dystopique qui est dominé par l'hypersurveillance, le contrôle et le silence sur la vérité. Pourquoi avoir fait ce rapprochement ?
J'ai voulu faire un clin d'œil par rapport au fait que, justement, quand on envoie une équipe d'astronautes comme ça dans une mission de 2 ans et demi, bah, y a un moment où on se demande quelle est la limite entre le choix qu'ils ont fait de manière très personnelle de s'engager dans ce type d'aventure jusqu'au moment où ils vont être manipulés, on va mettre des guillemets, mais par toutes les puissances qu'il y a derrière, que ce soit les agences spatiales et les gouvernements. Et finalement, il y a un moment où on se dit qu'ils ne pourront peut-être pas faire demi-tour, ils ne pourront peut-être pas choisir de ne pas y aller, et on va les obliger à faire un certain nombre de choix, à faire un certain nombre de concessions. Et voilà. Et donc, j'ai poussé ça assez loin, puisqu'évidemment, vous avez aussi dans le livre une intelligence artificielle qui les observe, qui analyse ce qui se passe. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose qui est une liberté d'écriture que j'ai choisie. Mais c'était pour souligner le fait que, voilà, dans ce genre de problématique, l'astronaute, c'est au départ un héros, mais c'est finalement aussi une sorte de marionnette avec laquelle les gouvernements peuvent jouer. Et très concrètement, j'ai choisi de parler de ce livre aussi et d'attirer l'attention sur cette problématique parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une astronaute chinoise avec laquelle je n'ai pas pu parler, tout simplement parce que c'était lors d'une grande cérémonie à Pékin avec une présentation très officielle sur un sujet scientifique, et l'astronaute était invitée et présente, mais elle n'avait pas eu le droit de prendre la parole. Et ça m'avait vraiment interpellé, parce que si on compare à Thomas Pesquet, qu'on voit tous les jours dans les médias et qui s'exprime complètement librement et encore heureux, puisque c'est notre héros national actuellement dans l'espace, comme quoi la problématique, elle est vraiment pas du tout la même d'un pays à l'autre. Et ce genre d'anecdote m'avait fait un petit peu réfléchir et j'ai voulu, à travers les extraits de ce livre et les références régulières, voilà, faire un petit clin d'œil tout au long de mon roman.
Donc, selon vous, quels seraient les apports d'une visite sur Mars au-delà de la curiosité, finalement ?
C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Souvent, on entend dire à quoi ça sert de mettre des milliards de dollars ou d'euros dans ce type de projet. Ça coûte très cher et on va peut-être d'abord résoudre les problèmes qu'on a sur Terre avant d'envoyer des gens dans l'espace. Aller sur Mars comme aller dans la station spatiale et plus globalement exploration spatiale au sens large, ça apporte beaucoup de choses aussi sur Terre par rapport aux technologies extrêmement poussées qui sont développées et qui permettent un certain nombre d'avancées, hein, que ce soit sur des questions vraiment autour des matériaux, autour de l'étude psychologique des astronautes, etc. Donc c'est le support d'un grand nombre de recherches scientifiques. Donc déjà, à travers ce type d'exploration, à travers ce type de projet, voilà, ça apporte des connaissances, y compris sur l'homme, et donc sur tout un tas d'expériences biologiques, physiologiques, etc. Donc ça, c'est une première chose. Mais je rebondis sur la question. C'est avant tout pour la science et pour la connaissance qui permet quand même de mieux comprendre évidemment l'histoire des planètes, l'histoire de la planète Terre également, et l'histoire de la vie. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu de la vie sur Mars. Peut-être qu'elle serait encore enfouie sous le sol à quelques dizaines de mètres. C'est quelque chose qui est une hypothèse possible aujourd'hui. Alors qu'il y a 40 ans, quand les premières sondes ont exploré la surface de Mars, on était très déçus. On voyait un tas de roches et de déserts. Puis finalement, on se disait, bon, il n'y a pas grand-chose. Ça ne va pas être très intéressant. Aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour cette planète, comme pour d'autres d'ailleurs, avec l'idée que ça pourrait nous apporter un certain nombre de choses, au-delà des connaissances, mais ça peut être aussi vraiment des ressources disponibles, etc. Donc ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus global que le simple voyage pour le plaisir.
Donc pourquoi finalement avoir choisi cette planète en particulier, justement pour ce potentiel de découverte que vous y voyez ?
Alors c'est vrai que Mars a toujours été une planète fascinante parce qu'elle a été repérée dès l'Antiquité, hein, avec sa couleur particulière, avec son mouvement rétrograde dans le ciel au fil de l'année, etc. C'est une planète qui est en quelque sorte une cousine de la Terre parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs, malgré les apparences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des rares sur laquelle on pourrait aller, pas forcément pour la coloniser, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment aller l'explorer. Donc, elle a un intérêt à la fois pour les agences spatiales aujourd'hui, mais aussi parce que depuis l'Antiquité, elle fascine l'humanité. Donc, il y a plusieurs arguments qui font que c'est quand même intéressant de regarder de plus près un petit peu ce qui se passe sur Mars. C'est vrai que le nombre de missions qui sont parties ces dernières années est quand même impressionnant. Il y en a de plus en plus et tout ça est plutôt bon signe pour préparer justement un vol habité dans les dizaines d'années qui vont venir.
À la fin de Nix Olympica, ne vous inquiétez pas, on ne spoilera rien, vous faites apparaître un personnage qui est cupide de découverte, qui est avare d'aller toujours plus loin et qui semble être inarrêtable. Selon vous, ce personnage est-il le reflet d'une part de l'homme qui ne saurait s'arrêter et qui en veut toujours plus ? Et est-ce que vous ne nous donneriez pas une sorte d'avertissement en nous disant que c'est une part qu'on devrait réussir à surpasser pour pouvoir sainement réussir à faire l'exploration en fait, de l'univers qui commencerait par Mars en fait ?
Alors, vous avez bien compris le sens du message que je voulais envoyer, donc c'est parfait. En effet, moi, je suis toujours un petit peu choqué quand j'entends un certain nombre de personnes, parfois assez influentes, qui sont vraiment orientées sur l'exploration spatiale, mais avec un but vraiment de colonisation, justement, pour revenir sur ce concept. Coloniser Mars, ça veut dire s'en emparer quelque part, être vraiment dans une logique de conquête, et pas d'exploration scientifique. Coloniser Mars pour s'y installer à terme, certains ont des arguments sur le fait que notre planète ne sera plus en très bon état, donc il faut aller s'installer ailleurs. Bon, ça pose quand même un certain nombre de questions, un grand nombre de questions même, et je crois qu'il faut avoir l'humilité aussi de se dire qu'on n'est que des êtres vivants de passage sur Terre, et donc de passage dans notre univers, donc voilà, à quel titre, quelle légitimité on a pour se dire, tiens, on va aller conquérir la planète voisine. Donc ça me pose un peu problème, et en tout cas, j'avais envie d'attirer le lecteur sur ces questions-là pour justement se questionner sur tout ce qu'on entend. quand on lance un appel à des volontaires pour aller sur Mars en disant « on va faire un aller simple, on s'installe là-bas », bon, non seulement c'est risqué, c'est dangereux, aujourd'hui on ne saurait pas y vivre de manière sécurisée, donc on envoie les gens quand même dans leur futur cercueil, hein, donc c'est quand même assez discutable éthiquement, mais au-delà de ça, aller s'installer sur Mars, voir terraformer Mars, donc qui est un terme qu'on entend avec l'idée que Mars pourrait être retransformé un petit peu comme la planète Terre, où on y remettrait de l'eau, on y remettrait de la vie. Je ne cautionne pas du tout, en tout cas, ce genre de choses, et je suis beaucoup plus intéressé par une exploration scientifique qui permettra déjà d'en savoir plus sur la planète. Ça me semble être une première étape déjà très indispensable.
Est-ce que vous prévoyez d'écrire une suite à Nix Olympica ?
Alors, je n'ai pas commencé à écrire de suite pour le moment, en tout cas. C'est vrai que là aussi, j'ai voulu laisser une porte ouverte, justement, pour la suite, sachant que pour le moment, c'est au lecteur de l'imaginer, sachant qu'il peut se passer évidemment des millions de choses dans une suite comme celle-là. Voilà, aujourd'hui, je ne travaille pas sur la suite, je travaille sur un autre livre qui est plutôt un documentaire sur Mars, justement, toujours, parce que ça me paraissait intéressant de continuer à travailler sur le sujet avec des chercheurs. Donc, on ne sera pas du tout dans le même style, ce ne sera pas un roman. Donc, pourquoi pas après. En tout cas, je me laisse la possibilité de le faire, mais je prendrai aussi le temps quand le moment sera venu.
Donc, est-ce que les chroniques martiennes vous ont influencé pour écrire le roman ?
C'est vrai que c'est toujours compliqué dans ce style d'écriture. Il y a des tas de romans qui existent sur le sujet.
Je n'ai pas tout lu, il faut être clair là-dessus. Et la difficulté, c'est à la fois de s'inspirer de certaines choses sans tenter de recopier, j'allais dire, et de s'en inspirer tellement qu'on serait sur quelque chose qui ressemblerait et qui aurait la même logique ou la même structure ou le même style d'écriture. Moi, j'ai surtout voulu faire, là aussi, un clin d'œil à des choses que j'ai vues ou que j'ai lues, sans forcément vouloir tout dire ou tout dévoiler, mais être plutôt dans une logique, là aussi, de clin d'œil, parce qu'il y a des passages qui m'ont intéressé, qui m'ont plu et que j'ai voulu mettre en avant. Voilà, je me suis plutôt inscrit dans cette logique-là. Donc à chaque fois qu'il y a une référence, qu'il y a un sujet, qu'il y a quelque chose qui est abordé, c'était plutôt dans l'optique de se dire, bah tiens, voilà, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres choses qui ont été écrites sur le sujet. Donc vu le format du livre, vu la succession d'extraits, etc., je pouvais mettre ce que je voulais en fait. Et ça, c'était une grande liberté aussi par rapport à ça. Et donc ça me permettait justement de faire un clin d'œil, y compris à Bradbury.
On se demandait aussi, dans le livre, vous faites référence à ce qu'il communique via signal radio. Est-ce que vous pensez que ce sera le moyen utilisé si jamais on met cette initiative en place ?
Alors aujourd'hui, on ne sait pas communiquer autrement que par des signaux radio entre un vaisseau spatial et la Terre. Ça peut paraître archaïque, mais ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne encore.
Après, justement, je pense que des médias comme la radio, pour faire référence aussi au volet radiophonique, justement, et les extraits qui sont proposés, qui communiquent vers le public. Hein, là. C'est un média qui est très utilisé aussi par les amateurs d'astronomie. Et finalement, je pense que ça a aussi un avenir, parce que c'est quelque chose qui est quand même dans le socle aujourd'hui, on va dire, des outils qu'on utilise pour communiquer sur Terre entre les êtres humains. Et je ne pense pas que ce soit rayé de la carte, même s'il y a de nouveaux médias aujourd'hui, de nouveaux modes de communication qui permettent d'échanger entre nous. Donc oui, c'était aussi un petit clin d'œil, parce que parfois, on a aussi un retour à des choses un peu plus basiques, à des modes de communication qu'on n'imaginait pas, qui finalement reprennent le dessus, redeviennent un petit peu émergents, alors qu'ils avaient été parfois un peu mis de côté.
Vous donnez plein de données vraiment qui sont super précises sur la vitesse, sur quand est-ce qu'ils vont déployer les parachutes et tout. Est-ce que c'est des choses, vous êtes vraiment renseigné sur, vous êtes allé chercher des infos de la NASA, est-ce que c'est vraiment des données parfaitement exactes ? Comment est-ce que vous avez fait ?
Pour toutes les informations liées aux technologies qui sont abordées dans le roman, je me suis à chaque fois basé sur des choses existantes, sur des études, sur des documentaires, sur des publications qui sont en ligne.
C'est vrai qu'on trouve une multitude d'informations sur le sujet avec des choses extrêmement détaillées. Donc il y a des scénarios qui sont vraiment écrits, qui permettent d'avoir un détail, y compris sur des choses comme au niveau des phases de l'atterrissage, avec en effet l'altitude, la vitesse, qui sont des choses qu'on connaît aussi, puisque comme on a déjà envoyé des rovers sur Mars, on a des informations assez précises. Le jour où on envoie des gens dans un vol habité, l'atterrissage, il se passera à peu près de la même manière. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut se baser, puisqu'on a les informations techniques extrêmement précises. Les combinaisons, aujourd'hui, elles ont largement évolué, et demain, elles évolueront encore avec des technologies aussi qui sont à l'étude et qui feront de ces combinaisons une sorte de seconde peau pour les astronautes, en quelque sorte, avec des capteurs, avec une protection au niveau de la température, une protection qui permet d'échapper aussi à tout ce qui est rayons du soleil, etc., qui sont extrêmement dangereux quand il n'y a pas d'atmosphère. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles il y a des recherches, sur lesquelles je me suis renseigné pour mettre un certain nombre d'informations. Là où j'ai pris quelques libertés, c'est parfois sur des technologies un peu plus futuristes que j'ai posées ça et là dans le livre, avec l'idée aussi que ça reste un roman d'anticipation, un roman de science-fiction. Et donc, il y avait l'idée aussi de faire rêver un petit peu le lecteur en posant des choses ça et là, sans forcément être toujours accroché exclusivement à des données scientifiques existantes. Donc, il y a 95% d'informations scientifiques qui est réaliste, qui est juste. Et de temps en temps, il y a des petites libertés qu'on repère d'ailleurs assez facilement, voilà, qui permettent de s'évader aussi un petit peu et de continuer à faire rêver le lecteur.
Quand vous parlez de liberté, est-ce que vous parlez par exemple de la phase de sommeil que vous... C'est-à-dire les phases de sommeil, c'est ça? Vous parlez de ça?
Oui, par exemple, c'est ce à quoi je pensais, la lecture des rêves. Bon, aujourd'hui, on n'y connaît pas grand-chose sur notre cerveau. Hein. Les connaissances au niveau de l'étude du cerveau humain, elles sont très limitées. Donc voilà, j'ai extrapolé en imaginant qu'avec un certain nombre de capteurs, voilà, on serait susceptible dans le futur de lire les rêves et d'être capable de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on dort. Là où j'ai extrapolé aussi, évidemment, et on en revient à la notion de surveillance, c'est l'idée que les astronautes, une fois dans leur vaisseau, sont aussi scrutés de près et donc qu'on explore aussi un petit peu ce qui se passe dans leur cerveau pour tenter de comprendre, durant leur phase de rêve, à la fois leur état d'esprit, à la fois ce qui les préoccupe, à la fois ce sur quoi il y aurait des problématiques à résoudre, si leur état psychologique, par exemple, n'est pas très bon. Voilà. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est une liberté que j'ai prise, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne sait pas faire ça.
Bah, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, en tout cas, parce que c'était instructif.
Bon, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.